Bonsoir à tous, bienvenue sur l'émission Psychodébat de ce jeudi. Alors aujourd'hui nous allons vous parler de deux sujets essentiels qui nous ont beaucoup intéressés. On va parler de quoi ? On va parler de bonheur et de résilience. De bonheur et de résilience, deux termes qui sont pas mal en vogue, qui sont pas mal galvaudés, qu'on emploie un peu à tort et à travers, mais qui restent quand même hyper intéressants, hyper centraux et hyper importants dans la vie de tout un chacun. Donc on va parler de ça à trois voix. Avec donc Bruno Quenet et Victor Hugo Espinoza qui sont avec moi. Et on va donc se poser des petites questions et vous pouvez intervenir pour participer au 04 91 08 28 15 tout au long de l'émission qui va durer une heure. Donc 04 91 08 28 15.
10. 04 91 08 28 10.
28 10 alors, 08 28 10. Et on sera très heureux de vous écouter. Alors, comment on parle de la résilience ? La résilience difficile, c'est la capacité à surmonter des épreuves sans se briser, en arrivant à rebondir malgré la difficulté du moment. Donc déjà, pour commencer, je voudrais vous demander, qu'est-ce que c'est la résilience pour vous ? Et est-ce que, quand vous l'avez rencontrée, comment est-ce que vous avez fait pour retourner vers la lumière après ça ?
Une chose qui est sûre, bonjour à tous, pour moi la résilience c'est la clé du bonheur. Parce qu'il n'y a pas de bonheur sans, quelque part, un malheur. Et quand on est dans, je pourrais la définir, quand on est dans le fond d'un trou, comment on fait pour arriver à s'en sortir ? Et c'est ça la résilience, c'est, je suis en face de la mort de quelqu'un que j'aime tellement et que je souffre, mais comment je fais pour continuer à vivre ? Donc la résilience, pour moi, c'est la capacité qu'on a, nous tous, à avoir un cœur. Parce qu'on n'est pas sans humanité. Donc on aime les gens, donc on souffre. Mais la résilience va être le temps que tu vas te mettre à souffrir pour quelqu'un ou pour quelque chose. Donc pour moi, la résilience, c'est apprendre à rebondir. Mais la résilience, et je finirai par là, il s'apprend petit à petit dans le parcours de sa vie. Et on apprend à utiliser sa propre résilience qui est adaptée à chacun.
Oui, Victor, je te remercie beaucoup de m'avoir invité. Donc, je suis Bruno Quenet, dit Aquila, le président de l'association marseillaise Citoyens du Monde. Alors, suite à ce que tu es en train de dire, je voudrais te poser une question. Est-ce que la résilience, c'est d'être fort tout le temps ?
Non, justement, la résilience, il vient quand on a un problème. Ça veut dire que si on n'a pas de problème, pourquoi être résilient si on est tellement heureux ? Donc, et ces problèmes sont différents selon ce qui arrive. La mort de ma grand-mère, que j'aimais plus que tout dans ma vie, c'est un type de résilience. Mais quand j'étais dans le stade national de Chili torturé, c'était une autre résilience. Ça veut dire qu'il fallait que je trouve, devant la torture, je trouve à quoi faire. Et c'était la lumière. Dans mon cas, c'était ma fille qui avait quelques mois, vous savez, 8 mois, 10 mois. Et c'est ça qui m'a fait avoir la force de voir cette lumière. Donc, des fois, ça peut être quelque chose de très philosophique. Et des fois, il faut accepter qu'on n'a pas la force d'être résilient. Donc, c'est ça, la résilience, pour moi.
Est-ce que tu penses que pleurer, c'est un manque de résilience ?
C'est bien au contraire. Je pense que... Moi, je fais des cours en ce moment qui s'appellent des formations de la prise de parole par le rire et la créativité. Mais je me suis rendu compte que j'ai dû l'appeler par les larmes et les rires. Pourquoi ? Parce que les gens qui rient les mieux, ce sont les gens qui sont devant une souffrance, qui acceptent la souffrance, qui vivent la souffrance. Il ne faut pas la chasser. Tu as dans une souffrance, tu as un cœur, c'est normal que tu dois souffrir. Donc, comment tu souffres, cette résilience, il va venir comme tu le ressens. La première fois, il va arriver d'une certaine façon. la deuxième, d'une autre façon. Et ma façon de résilier, c'est pas la même que la tienne, et c'est pas la même non plus qu'Aurélie. Mais il y a des techniques pour celle-là, et c'est qu'on va essayer de comprendre pendant cette émission, et pendant les questions qu'il va avoir de nos auditeurs.
Et je vais redonner la voix à Aurélie, oui. Parce que je ne veux pas monopoliser la parole, et puis parce que c'est ça le partage, c'est le partage également du temps. Alors donc, je vais juste conclure par rapport à ce que tu viens de dire, Victor. Donc la résilience commence parfois par les larmes.
Mais tu parlais justement, il n'y a pas très longtemps, là, de la souffrance. Je voulais... Il y a une chose qui m'interpelle, en fait. Je sais que tu as connu des périodes de torture dans ta vie, et je me dis, waouh, quand on vit quelque chose d'aussi... d'aussi horrible, d'aussi éprouvant, comment on fait après pour arriver à sortir de cet instant où on va se retrouver figé dans une période un peu traumatique et pour justement passer le cap pour redevenir résilient, enfin pour devenir tout simplement résilient. Quel est en quelque sorte le déclic qui fait qu'on passe comme ça, on retourne
Et je vais te dire une chose.
Question un peu difficile, pardon.
Non, c'est une question magnifique parce que moi-même je ne me l'ai jamais posée. Mais la réponse qu'il te donne, c'est que tu n'as pas le choix. Tu tombes dans l'eau, tu dois nager pour arriver. Donc tu dois nager jusqu'à... Donc tu es obligé à nager. Tu es là devant ton tortionnaire qui
va... Excuse-moi, je te coupe. Est-ce que tu peux juste nous expliquer en quelques mots ce que tu as un peu vécu?
Oui, par exemple, peut-être pour dire un exemple, pour donner un exemple, parce que j'ai une vidéo que j'ai faite sur les témoignages et les horreurs que j'ai vues dans le coup d'État. Moi, je voudrais juste un témoignage que je répète tout le temps. Pourquoi je le répète? Pas pour que les gens m'admirent. Non, pour que ces choses ne viennent pas. Donc, par exemple, le château de la mort, c'était 4 personnes couchées comme ça, 4 en travers, 4 en travers, 4 en travers. Ils te trouvaient à être en 14e étage et toi, torturé, tu tuais tes copains qui étaient au premier étage. Donc là, tu es là, on t'a mis là, tu ne peux pas bouger parce que sinon on te tue. Et donc, qu'est-ce que tu fais?
Tu veux dire des hommes empilés les uns sur les autres, c'est ça?
Empilés les uns les autres, en travers. Tu
d'accord.
Vois? Donc, les gens qui étaient au 12e étage écrasaient les autres et les tuaient. Donc, tu avais une double peine. Tu étais torturé. Et en plus, tu devenais tortionnaire de celui qui était en bas. Donc, comment tu fais? Ce que tu fais, il y a certains qui deviennent fous. Il y a d'autres qui deviennent dépressifs. Et il y a certains qui disent, c'est pas ma faute. C'est la faute du tortionnaire.
Oui, ça me fait rappeler l'exemple, je pense que je l'avais dit également la dernière fois, du film Icomicar, où on s'aperçoit que c'est que les gens qui ont du pouvoir imposent de temps en temps à faire des choses qui sont contre nature, et puis donc il faut réussir à accepter un petit peu tout ça, et donc effectivement... Quand la résilience, ben, je pense que c'est avancer malgré ce qu'on vit et continuer à vivre.
Peut-être que je vais ajouter quelque chose. Tu m'as posé la question. Je t'ai dit, tu n'as pas le choix. Des fois, tu as le choix. Des fois, tu as le choix d'être résilient pour rapport à des choses. Tu as des techniques pour être résilient pour rapport à d'autres. Je donne un exemple. La mort de ma grand-mère. Et à 12 000 km ici, elle meurt. Et c'est la personne que j'aime le plus. Et donc, il faut, la résilience ne peut pas être là pendant ta période de deuil. Il n'y a rien à faire. Tu dois pleurer. Je dois pleurer pour ma mère. Je dois pleurer pour ma grand-mère. Je pleure un temps. Mais la résilience, c'est le temps le minimum possible. Et je donne un exemple d'une technique. Ce n'est pas une technique, mais c'est quelque chose que moi, je me découvre. J'ai pleuré. Je me regardais dans la voiture. Je vois dans le rétroviseur, je me vois en train de pleurer. Mais au fond, comme j'avais appris que ma grand-mère est morte dans l'autre bout de la terre, je me suis rendu compte qu'au fond, j'étais en train de pleurer parce que pour ne pas souffrir, il fallait que je l'oublie. Et ce que j'ai fait, c'est le contraire. Je me dis, elle est là partout avec moi, elle sera toujours près de moi, donc tous les jours, je pense à elle, tous les jours, je ne vais pas dire qu'il y a le mot de passe, mais tous les jours, elle est avec moi. Donc j'ai fait le contraire. Que les gens qui ont peur de confronter, elle est avec moi. Une personne qui est morte, qui vit avec toi, aujourd'hui je suis dans cette émission, peut-être sont à côté de moi, c'est l'espiritualité. Et voilà comment je me suis sorti de cette angoisse.
Ça me fait rigoler parce qu'effectivement, nous sommes nombreux. Nous sommes trois personnes, mais autour de nous, il y a toute la famille de Victor qui est là, et puis la mienne, et certainement celle d'Aurélie aussi. Écoute, donc, moi, je pense que j'ai compris un petit peu le thème, pourquoi tu fais cette émission aujourd'hui, que tu nous as invités à y participer. C'est donc parce que, est-ce que tu penses que demander de l'aide, c'est un signe de faiblesse?
C'est bien au contraire. Demander de l'aide, c'est un signe, justement, le premier pas de la résilience. Ça veut dire qu'il ne faut pas demander de l'aide pour n'importe quoi. Par exemple, si tu es... Des fois, tu vas dire, je vais demander de l'aide pour telle chose. Mais peut-être l'aide vient de toi-même. Ça veut dire que des fois, tu te dis, ma façon de m'aider, c'est aider les autres. C'est là qu'il vient la philanthropie. Ma façon d'aider, c'est comprendre les autres. Et donc, ce que tu dis... C'est la technique ou la méthode qui permet justement de dépasser cette chose-là, c'est peut-être aussi de dire, j'ai devant moi quelqu'un qui souffre, il demande de l'aide, je l'aide, mais quand moi je souffre, je vais aussi demander de l'aide. Mais c'est, ça dépend qui. Je ne demande pas l'aide à n'importe quelle personne. Je demande de l'aide pour rapport... aux élections, par exemple, par rapport à être candidat, je vais demander de l'aide à des gens qui ont la même conviction que moi, qui m'aiment bien, qui je sens qu'ils m'aiment bien et qui croient à mes principes. Et là, dans ce cas-là, je demande de l'aide parce que seul, je ne vais pas loin. D'ailleurs, la résilience, c'est reçu et peut être vaincu toujours avec les autres. C'est mieux que tout seul.
Est-ce que vous pensez, du coup, qu'on peut... au quotidien, développer cette résilience, la cultiver pour être toujours prêt en quelque sorte à rebondir ou pour parer au coup du destin? Est-ce qu'on peut être dans une préparation mentale en quelque sorte affective?
Oui. Je pense que c'est un état d'être déjà au départ, mais ça se cultive. Il faut vraiment vivre aussi avec des gens qui ont cette envie de vivre, cette envie de partager. Je pense pas qu'on puisse sortir d'un trou tout seul. Voilà. C'est pour imaginer. C'est que si on veut sortir de quelque chose, d'un malheur, de peu importe, même d'un bonheur l'amplifié, il faut être plusieurs. On peut rien faire tout seul. Moi, ce que je dis souvent, c'est que le proverbe africain qui dit seul on va vite, ensemble on va loin. Je dis oui, mais la première partie, seul on va pas vite. Seul, on n'a pas la totalité des potentiels. Oui, on a du potentiel en nous, mais c'est aussi un challenge à développer ce potentiel personnel de façon à pouvoir, quand on nous tend la main, la saisir. Voilà, c'est ça. Il va falloir pouvoir saisir la main qu'on nous tend et ne pas dire non, ta main est sale, etc. Non. C'est, si tu peux m'aider, ben merci beaucoup parce que je vais te remercier et moi aussi je vais partager à mon tour, peut-être pas avec toi, mais avec quelqu'un d'autre parce que c'est quelque chose que je vais passer un petit truc, c'est que si tout le monde se donnait la main, il y aurait plus de guerre.
Par contre, je vais ajouter quelque chose au niveau de la résilience. Tu as des résiliences dans ta vie qui sont différentes parce que tu prends de l'expérience, tu apprends des choses des autres. Tu as la résilience aussi pendant ta journée. Aujourd'hui, on est dans une journée. Toi-même, Aurélie, tu es là. Tu es là pour faire une émission qui t'avait un peu peur au départ, mais tu as dépassé ta peur.
Il ne fallait pas le dire.
Tu fais de la résilience. Non, avoir peur, dans la prise de parole, il faut toujours avoir un peu peur. Pourquoi il faut avoir peur? Parce que moi, la résilience, j'ai compris, pour parler bien dans ce monde, il faut parler avec son cœur. Il faut dire ce qu'on pense vraiment. Il ne faut pas baratiner pour baratiner. On dit des choses parce qu'on les pense vraiment. Et tu te fais plaisir et c'est une façon de résilience de la parole. Parce que si tu te mens toi-même, tu ne peux pas être résilient. Donc, il y a des moments de la journée que tu vas appliquer des petits gestes pour être résilient. Donc, pour moi, la résilience, c'est commencer à apprendre avec des petites choses. Et je peux être résilient avec ma mère, et peut-être avec mon père, non, parce que j'ai peur de lui parler. Donc, tu vois comment, selon avec qui tu es aussi, tu vas avoir une forme de résilience un peu différente. Et la résilience commence pour accepter la souffrance, accepter que on souffre parce qu'on n'est pas inhumain, parce qu'on a un cœur. Et c'est à partir de là que commencent toutes nos angoisses, parce qu'on souffre pour les gens qui meurent, on souffre pour la guerre. Voilà. Donc tu vois bien comment les choses avancent.
C'est ça qui est étrange quand même, c'est qu'il y a un double mouvement où d'un côté il faut vraiment accepter la souffrance pour après, ensuite pouvoir construire, se reconstruire pour en sortir. Quoi. Ça commence par presque un recul pour après,
tout à fait.
Plus tard, sauter en avant.
Tout à fait, il faut accepter les erreurs parce qu'on fait tous des erreurs, personne n'est parfait. Et puis quelque chose que je pense qui est important, c'est quand on a fait un petit pas en avant, ben il faut pas oublier de célébrer cette victoire. Quand on a trouvé un moyen de s'en sortir, eh bien il faut pas avoir peur de récupérer du bonheur. Et encore une fois, je le dirai souvent, c'est qu'il faut le partager. Voilà.
Une chose qui est intéressante aussi, comprendre qu'un perfectionniste, quelqu'un qui a été élevé d'une façon perfectionniste, il va avoir du mal à être résilient par rapport à des choses, parce que cette personne peut-être fausse les choses bien à 95%, mais il va être insatisfait de 5%. Donc, il va avoir difficulté à être résilient par rapport à ces 5% qui le manquent. Par contre, quand tu fais plein de choses et tu acceptes, comme on a dit Bruno, les erreurs, tu vas avoir une résilience qui vient d'une façon naturelle. Donc c'est ça qu'il faut bien comprendre, qu'au fond les choses, il ne faut pas les forcer pour pouvoir avancer dans ces résiliences de chacun de nous. Donc un perfectionniste ou quelqu'un qui est plus libre pour dire les choses, il va se sentir heureux. Mais s'il est trop libre et trop bordélique, il va se sentir malheureux de ne pas avoir de contenu. Donc tu vois qu'il y a un réglage à faire pour être heureux.
Je vais donner un petit exemple imagé. Souvent, on dit que les gens regardent le. On dit est-ce que le verre est à moitié vide ou est-ce que le verre est à moitié plein. Alors, moi, pour cette histoire des 5% qui risquent de perturber les gens, il faut savoir qu'un verre, il est toujours à 100% plein. Même s'il est à 50% de vide et 50% de plein, au total, eh bien, le 50% de vide et le 50% de plein, c'est un verre. Et c'est comme ça qu'il faut regarder, c'est que même si on a un petit défaut, eh bien, il faut le cultiver, ce petit défaut. C'est pas un défaut, en réalité, c'est une qualité, mais il va juste falloir l'adapter.
Là, tu me donnes la perche pour donner l'exemple. Quand je commence, je suis prof de prise de parole, et je commence pour dire que j'ai pas besoin de le dire, hein. J'ai un accent, et cet accent, c'est un défaut, parce qu'on ne va pas comprendre des fois des petites choses que tu dis, mais ça devient une qualité, c'est moi. Mais derrière ça, il y a ce qu'on appelle le conscient et l'inconscient. Dans l'inconscient, il y a le fait que moi, je vais rester aussi chilien, je vais rester latino-américain, et je vais rester français, et j'aime les deux. Et le fait que j'aime les deux, c'est moi qui choisis mon chemin. Et c'est moi qui choisis la résilience. Ça veut dire que deux personnes, moi et mon frère, on peut avoir une position différente. Lui, il peut voir que toi, tu es raciste. Et moi, si je viens me couper les cheveux chez toi, et tu me dis que tu n'es pas d'ici, moi, je vais être très content parce que presque tu me donnes un plus. C'est un problème de regard aussi. Comment tu regardes l'autre?
C'est vrai, c'est vraiment une histoire de communication. Il faut vraiment que les gens apprennent à communiquer. Quand on communique, on crée des liens, des ponts, et c'est comme ça qu'on peut vraiment avancer dans la vie. Il faut pas avoir peur de parler, d'écouter aussi, d'écouter les autres, parce que c'est comme ça aussi qu'on va les qui vont devenir des amis. Il y a un livre magnifique sur ça. Je me rappelle plus l'auteur. C'est Dan Kaché. Je me rappelle plus. Bon, c'est pas grave. Mais il y a comment se faire des amis, c'est simple. Écoutez-les.
Carnegie,
c'est ça. Oui. Donc c'est écouter les gens plutôt que de parler. Bon, ici on est obligé de parler, c'est une émission de radio. Mais plus on écoutera les gens, plus on les comprendra et plus on verra que ils sont comme nous pour finir. Ils ont des qualités, ils ont des défauts parce que personne n'est parfait.
J'aimerais bien poser une question à Aurélie.
Vas-y, je t'écoute.
J'aimerais poser la question à Aurélie. Si toi, qu'est-ce que tu en penses de la résilience et comment tu la ressens toi dans ta vie, tes profs? Donc oui. Comment tu fais pour quelles sont les choses que tu penses que tu fais de la résilience et sur quoi tu voudrais avoir plus de force pour faire de la résilience?
Sur quoi je pense? Il y a plein de petites choses du quotidien qui sont pas forcément toujours faciles pour soi et du coup la résilience pour moi ce serait un peu un rapport de force, un entraînement à faire mieux. et à faire ça en fait, essayer de mettre beaucoup d'amour dedans pour que ça se fasse avec le plus de douceur possible. Ouais, c'est surmonter des obstacles qui sont des obstacles personnels et apporter beaucoup de douceur dedans pour que ça puisse se faire de façon la plus enrichissante et la plus positive en fait.
Ce qui est beau dans ton récit, tu as dit quelque chose qui m'a touché aussi parce que tu dis au fond comment faire pour faire encore mieux.
Ouais, c'est ça qui est important aussi,
la résilience, tu dis il faut faire pour son mieux, c'est les 4 accords toltèques, mais il faut pas faire toujours pour son mieux. Je m'explique. Ça veut dire que, et c'est là qui vient le perfectionnisme intérieur dans ton, parce que tu veux être
ah oui,
à
tu veux,
bon
tu
niveau, tu veux être tellement à un bon niveau que, comme on est dans un monde qui peut-être Bruno il vient avec un problème, mais c'est son problème, je vais accepter qu'il y a ce problème là, mais je ne vais pas combattre. Oh, je suis en train de faire une réunion, il y a 3 jeunes qui dorment là-bas au fond, et tous les autres sont tous contents, mais sauf 3, là je vais penser... Je n'ai pas pensé qu'ils ne veulent pas de moi. Je pense qu'ils sont fatigués. Donc, tu vois bien que les perfectionnistes peuvent aller très loin. Une amie à moi qui s'appelle Laura, il faisait avec moi des formations. Et des fois, il y avait 3 qui étaient au fond. Tu comprends, j'étais pas bonne parce qu'il y avait 3 qui dormaient. Mais ils ne dormaient pas à cause de toi. Ils dormaient parce qu'ils étaient fatigués. Et pas tout le monde va t'aimer. Pas tout le monde va t'adorer. Et peut-être ils sont ailleurs. Et c'est ça, la lecture. Il fait bien souvent la souffrance. Et deuxième chose que j'ai vu chez toi dans tes paroles, que tu veux tellement bien donner, tu veux tellement donner de l'amour, de la douceur, que presque, si tu as quelqu'un à côté...
Mais c'est de l'amour pour soi aussi.
Oui,
hein.
Oui, mais quand tu veux donner ça...
Sans se mettre trop de pression.
Tu donnes tout. Et ce qui est important, que tu dises dans la résilience, j'ai tout fait par une bonne intention. Les choses n'ont pas faites comme je voulais. Ils ne l'ont pas interprété d'une autre façon. Mais tu dois te dire bravo. Et ça, c'est la première résilience. Te dire bravo et être content de ce que tu fais.
Oui, il faut reconnaître que quand il y a quelque chose qui ne marche pas, il faut reconnaître que ça ne marche pas, mais tant pis, on avance quand même. Il ne faut pas rester sur les échecs. Le fait de toujours avancer, eh bien, c'est constructif. On ne va pas réussir à changer le monde en une seconde, comme il y a le fameux proverbe qui dit « Paris ne sait pas faire un jour », mais c'est pareil, on ne peut pas guérir tout de suite, mais chaque journée, chaque seconde, eh bien, on fait un petit pas, et c'est grâce à ça, et grâce à ces petites victoires que je disais tout à l'heure, ne pas oublier de fêter les victoires, c'est important, parce que ça donne du bonheur à notre cerveau, et ce bonheur, eh bien, on va vraiment avoir presque des vibrations, même ici, à en parler, je suis en train de recevoir du bonheur, toutes les vibrations positives qui sont autour de nous. Et puis voilà, il faut vraiment continuer à se dire de toute façon, ça ne marche pas, mais ça va marcher. Et ce n'est pas ma faute, c'est parce que c'est comme ça, c'est tout. Et on y va, et on y arrive, c'est obligé.
C'est très important ce qu'a dit Bruno, ce n'est pas ma faute. J'ai donné tout ce que j'avais, tout mon amour qui est donné. Les autres, ils ont interprété le chemin, ce n'est pas ma faute. Il y a Bruno qui a dit un petit mot, on travaille beaucoup avec des mots-clés. Lui, il a dit, on n'a pas guéri. Quand on dit on n'a pas guéri, ça veut dire qu'on a une blessure. Il y a quelque chose à guérir. Mais quand il dit, je n'ai pas guéri de la souffrance de ma grand-mère, ça veut dire qu'il y a un temps qui va s'arrêter. Parce que je vais l'aimer d'autre façon, je vais accepter. Et ça, c'est partie de la résilience. Entre guérir et se soigner, entre guérir cette personne qui est partie et l'accepter qu'il n'est plus là avec moi, mais il est avec moi.
Moi, il y a quelque chose que je trouvais très beau que tu as dit, Bruno, c'est que tu as dit, en fait, la résilience, on ne peut pas sortir du fond d'un trou tout seul, en fait. C'est vraiment avec un entourage, avec des liens, des connexions autour de nous. Et c'est vrai que souvent, quand on traverse une épreuve, on a tendance à se sentir seul dedans. Mais c'est vrai qu'en fait, c'est tout un parcours collectif, finalement.
C'est un parcours collectif, mais la vie est un parcours collectif. Parce que le jour où il y a quelque chose qui arrive, si on a pris l'habitude d'être tout seul, eh bien, ça va être encore plus compliqué de tendre la main, parce qu'on va pas savoir en plus à qui tendre la main. Alors que si on vit une vie normale, une vie humaine, eh bien, on a autour de soi des gens à qui on fait confiance, on sait que... On demande, et les gens, quand vous commencez à avoir des amis qui te disent, quand tu leur dis, tu peux me donner un coup de main, ils te disent oui sans demander pourquoi. Là, tu peux dire que tu as commencé à changer la route et à partir vers une nouvelle humanité. Quand tout le monde dira oui facilement, et bien les gens s'apercevront que c'est possible. Après, on discutera d'autres sujets, mais je te redonne la main.
Ben, on a parlé de la résilience comme quoi c'était une histoire de regard aussi. Donc ça voudrait dire que, à quel point le bonheur est aussi une histoire de regard ? Est-ce que quand on a vécu des épreuves comme ça, en changeant son regard, on peut trouver le bonheur plus facilement ?
Des fois, il faut changer son regard et des fois, il faut garder son regard. Ça veut dire que des fois, tu vas changer ton regard vis-à-vis des différentes personnes que tu vas avoir devant toi. Donc l'effet de changer le regard, tu acceptes des choses qui normalement tu n'acceptes pas parce que des fois c'est peut-être culturel, donc tu vas avoir des chocs à cause de ça. Mais des fois aussi, il faut garder son identité. Donc il faut garder ton regard vis-à-vis de ton histoire, ton regard vis-à-vis de ton futur, ton regard vis-à-vis de ton emploi. Donc tu vas garder tes choses. Il ne faut pas, parce que tout le monde, quand on a autour de nous, on dit « il faut que tu changes ». Mais il faut que tu changes si tu ressens que tu dois changer. Mais il ne faut pas changer si tu ressens ce que tu as et qui est parti de ton bonheur. C'est très compliqué. Et c'est là que vient la résilience aussi. La résilience aussi, ça peut être se protéger. Des fois, tu n'as pas le choix de te protéger. Certaines personnes trop toxiques ou des situations toxiques.
Je pense qu'il faut aussi prendre en compte que nous sommes responsables de ce qu'on fait. Il ne faut pas dire que c'est de la faute d'un tel, que ça n'a pas marché, que c'est la faute d'une autre personne, que ça n'a pas marché. Au bout d'un moment, il faut quand même se rendre compte que c'est nous qui maîtrisons notre vie. Tout ce qui nous arrive, c'est nous qui décidons. Donc, effectivement, il y a des paramètres qui influencent ce chemin. Mais si on veut se sortir de quelque chose, si nous-mêmes on n'y croit pas, on n'arrivera pas. Donc c'est encore l'histoire de quand on est au fond du trou. Si on voit qu'il y a beaucoup de monde qui sont en train de nous tendre la main, si nous on tend pas la note vers eux, on n'y arrivera pas. Donc il va falloir qu'on apprenne à se dire que voilà, moi je pars vraiment d'une chose que je pense que tout est possible sur la Terre. Il faut du temps. Voilà, il faut du temps, il faut admettre que ça se fait pas un clic, mais si on avance avec un groupe, avec des personnes comme là, aujourd'hui pourquoi on vient ? On vient pour partager ce qu'on a vécu, pour partager nos expériences et pour donner des clés. Voilà, n'hésitons pas à donner des clés.
Pour donner des clés et prendre des clés.
Aussi.
Pour moi, c'est très important que quand je suis avec les autres, quand même quand je fais une formation, je viens pour transmettre, pour créer une dynamique de groupe. Mais avant tout, derrière tout ça, il y a un côté égoïste. Et le côté égoïste, c'est très important de vivre l'enthousiasme de ces moments que tu es en train de partager. Et comme tu les vis dans mes formations avec les aides à domicile, par exemple, j'apprends autant qu'eux. Parce que j'apprends l'expérience de chacun, et c'est une expérience particulière pour rapport aux gens de fin de vie, pour rapport aux gens qui ont des problèmes psychologiques ou psychiatriques, et pour rapport à des gens qui ont besoin, si tu veux, d'Alzheimer. Donc, tu comprends bien que tu es devant des gens dans lesquels, toi, tu vas dire comment je fais, et tu apprends des choses. Et c'est ça la clé peut-être de tout ça, c'est la clé. Je pense qu'on va donner le numéro de téléphone et on va demander la pause musicale aussi, je pense, qui a été choisie. On a choisi celui-là parce qu'on a choisi la chanson de Che Guevara parce que c'est l'un qui était résilient. Parce que pour passer d'être millionnaire riche tout à coup à se battre pour toute l'Amérique latine, et s'il faut plus que la résilience, c'est parce que normalement, quand tu passes d'être hyper riche à être
humain,
pas pauvre, c'est bon.
Humain. On va donner une bonne question.
Alors, vous pouvez nous joindre au 04 91 08 28 10. 04 91 08 28 10.
Si vous avez
N'hésitez
des questions,
pas.
C'est le moment.
Aprendimos a quererte. desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso un cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa. Aquí se queda donde esperan la firmeza de tu brazo libertario. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara.
Bonsoir sur l'émission Psychodébat, on va reprendre, on vous attend, on espère que vous allez intervenir avec nous. Vous pouvez nous joindre, je vous rappelle, au 04 91 08 28 10, 04 91 08 28 10.
Et on parle,
on est en train de parler de résilience et de bonheur. Comment l'un va avec l'autre, comment on fait pour retrouver le bonheur après des moments plus difficiles. Voilà, voilà.
Donc, je ne sais pas si tu as une question, on va partir pour la question.
Vas-y, vas-y. Tu me le poses à moi.
D'accord. Bon, la première question que je vais vous poser, par exemple, on va... Il y a quatre types de souffrances extrêmes ou souffrances qui nous font rebondir. Un, ça va être la perte d'un travail, la perte d'un être aimé, ça peut être la perte de choses que tu aimes. Bon, il y a pas mal de petites souffrances ou de grosses souffrances, qui, la trahison. Donc, moi, ce que je posais comme question, on va commencer par rapport, premier, à l'effet comment accepter l'inacceptable, la mort de quelqu'un.
Bon, ben écoute, là c'est une question douloureuse. Accepter la mort de quelqu'un, c'est, ça m'est arrivé, mais je suis un mauvais exemple parce que souvent on me demande mon signe du zodiaque et je dis optimiste, ascendant optimiste. Alors j'ai beaucoup de mal à répondre à ta question, mais je vais essayer de me concentrer un peu parce que j'ai perdu effectivement des personnes vraiment très très importantes pour moi. Et comment j'ai fait, bah, un petit peu comme toi, Victor. C'est que voilà, c'est qu'il faut se dire que de toute façon, elles sont parties, mais elles sont toujours là. On va les revoir. Et voilà, ça fait partie de la vie de perdre des personnes importantes. Et puis, il faut continuer à vivre parce que je pense qu'elles, elles auraient désiré qu'on continue à vivre et vivre encore mieux. Parce qu'ils ne sont pas plus là, peut-être vivre encore mieux pour les rendre encore plus heureuses.
Avant de donner la parole à Aurélie, je voulais te dire que ce qui t'a dit, c'est très profond parce que finalement, c'est une des techniques. Une des techniques, quand je dis technique, c'est mettre dans sa tête que la personne, ta mère, ta grand-mère qui t'a adoré, la seule chose qu'ils veulent, c'est ton bonheur. Donc tu ne vas pas mourir parce qu'il est dans une détresse.
Tout à fait.
Elle veut, et si elles sont là, s'ils ne sont pas loin, elle veut que tu sois heureuse ou heureux. Donc tu vois bien que c'est une forme de résilience de trouver un sens. Ta souffrance.
Oui.
Toi Aurélie ?
Eh bien moi c'était un peu plus, processuel, robotique. Bon, en fait, quand ça m'est arrivé ce cas extrême-là, je pense que j'ai plutôt fait du déni, mais si ça me réarrivait maintenant, ce que j'avais fait pour traverser des périodes assez difficiles, c'est que c'était un peu, je m'étais acheté un post-it, donc c'est un peu bizarre comme histoire, un bloc de un petit carnet là, et en fait, j'écrivais toutes mes envies. Et en fait, dans envie, il y a plus loin, vie, en fait, je me suis rendu compte. Donc, en fait, c'est comment rester en vie.
C'est
donc, en fait,
beau.
Si tu marques des envies, je me suis rendu compte qu'en faisant l'exercice de les noter, ça te donnait un espèce d'élan pour l'avenir, pour justement essayer de trouver du sens quelque part et te dire, ah tiens, ça m'enthousiasme, ça me permet de continuer à me projeter dans quelque chose qui me fait envie, en fait. Et donc, je me rappelle que je notais comme ça sur un petit carnet plein d'envies. Et je me forçais en fait à les réaliser petit à petit et ça m'aidait à garder le sourire, à travailler, à garder le sourire pendant des temps un peu difficiles comme ça. C'était assez efficace comme méthode.
C'est ce que j'ai trouvé beau. Tous les gens qui entendent l'émission, ils ont vu une Aurélie pleine d'énergie. Vraiment, tu es là avec, parce qu'il te raconte quelque chose qui est vrai. On le voit dans tes yeux, on le voit la façon qu'il te raconte. Il savait bien. Pour les gens qui entendent, ça plaît parce que tu es toi. Tu es en train de transmettre avec ta voix, tu transmets. C'est pour ça que quand on téléphone à quelqu'un, il faut sourire. Parce que quand on téléphone, on transmet un état. Donc ça, c'est la première chose. Après, quand tu as dit, j'écrivais les choses, tu avais trouvé ta résilience à travers ton carnet. Ça veut dire que tu as trouvé une piste qui s'adapte à toi. Et en même temps, quand tu dis... Tu étais dans le déni, mais le déni, c'est parti des étapes pour aller vers la résilience.
Ouais, c'est la première étape.
Pourquoi tu fais le déni? Parce que simplement, si j'aime quelqu'un, quand il me dit ma grand-mère est morte, ou ma mère est morte, je dis non. Et je veux soin de ce déni parce que je veux que dans ces souffrances extrêmes, je veux soin qu'il soit là, je mets la musique et des choses qui... Donc je mets des choses pour souffrir encore plus. Pas pour faire le mélodrame, parce que j'avais besoin d'être connecté à elle. Les boléros, les choses qu'elle écoutait, j'avais besoin. Et c'est la même technique, au fond, quand on regarde bien. Tu mets quelque chose en marche, et si tu te rends compte que ça t'a aidé à toi. Y écrire, quelque part, et parler aussi. C'est poser ses patates, ses souffrances, tu les as posées, et en plus, philosophiquement, tu as vu des mots. Donc, je ne sais pas si tu trouves que c'est une belle idée. Tu nous donnes une idée.
Mais de rien.
C'est une bonne idée. Et je donnerai une autre piste qui est la concentration. Il faut qu'on apprenne à se concentrer sur des problèmes, des sujets. Quand on est tout petit à l'école, on dit « Écoute, Bruno, concentre-toi sur ton devoir ». Mais on n'apprend pas à l'école à se concentrer. Déjà, c'est quelque chose d'important. Donc, il faut apprendre à tirer l'essence des problèmes pour pouvoir les résoudre. C'est que tout le temps qu'on n'a pas l'essence, qu'est-ce qui a fait le mal? Eh bien, ça va être très compliqué de pouvoir guérir cette blessure. Donc, il y a une partie, je pense, de réflexion sur d'où vient cette douleur et donc comment l'éliminer, puisque quand on connaît le problème, on dit toujours on connaît la solution une fois qu'on connaît le problème. Donc ça fait partie peut-être d'un processus qu'il faut mettre en œuvre pour sortir de ces malheurs.
Peut-être je peux ajouter quelque chose qui est dans la résilience, la technique de résilience qui marche très très fort, pour moi au moins. C'est un peu ma mère qui me l'a dit quand je... Quand j'avais un problème quand j'étais petit, on n'avait pas trop de sous, tout ça. Et il me disait, ne viens pas ajouter un problème, dis-moi quelle est ta solution. Et ça, c'est capital pour moi, parce que des fois, quand il y a un problème, la solution, c'est de décortiquer le problème. Donc, tu divises ton problème. J'ai un problème ça, j'ai un problème ici, j'ai un problème là-bas, j'ai différents problèmes. J'avais un problème du micro parce qu'il était trop loin, si je voulais tousser. Donc, je divise mon problème. Et le fait de les diviser, je peux comprendre les différents. Quand j'ai un problème avec ma mère, j'ai dit pourquoi, j'ai dit si, voilà. Je décortique les problèmes, les différentes choses, et j'analyse chacun. Et ça, c'est un petit peu de post-it. C'est un petit peu séparer des problèmes pour mieux attaquer ou résilier sur chaque problème séparément.
Là, tu te fais raison. Moi, je suis quelqu'un qui adore faire ça, moi. Si tu veux me donner un truc sympa à faire, tu me donnes une chaîne toute petite avec plein de petits nœuds et retirer tous ces petits nœuds.
Ah, mais je veux dire, mais des plus de chaînes. Hein.
Voilà, c'est quelque chose qui est effectivement... Donc, si on décortique le problème, on va pouvoir trouver plus facilement des angles d'attaque. Et puis, je voudrais aussi dire, donner un exemple concret d'une personne qui a été très résiliente, qui est connue mondialement, c'est Shakira. Quand elle était petite, tous ses profs de chant lui ont dit qu'elle chantait comme une chèvre et qu'elle n'arriverait jamais à rien dans la vie. Oui. Et on lui a toujours dit, tu n'arriveras à rien, tu chantes comme une chèvre. Tous ses profs. Et voilà. Et maintenant, c'est arrivé à beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Tous les gens qui sont des gens à succès ont vécu des démarrages difficiles, mais ils ont cru en eux. Donc, il faut croire en soi. Quand on croit en soi, on peut changer les choses. Et donc, c'est vraiment très important. C'est d'avoir la foi. Voilà.
Peut-être, tout à l'heure, tu disais que comment on fait pour résilier sur quelque chose qui est difficile. Donc, c'est là que c'est important de savoir qu'il y a des moments que tu ne peux pas résilier, que tu peux qu'accepter. Il y a même un livre qui dit « Accepter son malheur », « Accepter la tristesse », parce que tu as un cœur. Donc, tu passes pour cette étape-là. Une fois que tu as passé pour cette étape-là, tu peux commencer à regarder tes pistes à toi. Comme tu l'as dit, toi, sont des pistes que tu vas faire. Et n'importe qui. Par contre, il y a deux types de problèmes, qui sont les problèmes psycho-freudiens et les problèmes psycho-comportementalistes, qui c'est différent. Pour la résilience, on utilise beaucoup le psycho-comportementalisme. Vous savez que je fais des actions pour sortir d'un problème. D'accord ? Ça peut être la cigarette, ça peut être plein de choses.
Il y a l'action.
Mais après, je peux avoir un problème psycho-freudien. Je m'explique, par exemple, si pour malheur, mon papa, il est parti, et je ne me sens pas aimé parce que je n'ai pas ma mère qui travaillait, tout ça, et je ne me sens pas aimé, c'est un problème profond que je vais régler par les problèmes psychocomportementalistes, parce que je vais avoir plein de gens qui m'aiment, donc il y a trois qui parlent, quatre qui sont là, donc je trouve un système psycho, mais il faut pas faire de la résilience avec des problèmes trop, trop profonds. Il faut les gérer. Il faut les changer, mais il ne faut pas vouloir toute sa vie, et c'est là qu'il vient le perfectionnisme, toute sa vie à essayer de régler quelque chose que tu sais très bien, que tu ne vas pas régler, mais que tu vas gérer.
Je voulais reprendre la parole pour donner, moi j'aime bien donner beaucoup d'espoir aux gens, donc l'exemple de Shakira n'est pas le seul, il y a aussi l'exemple de Schwarzenegger. Arnold Schwarzenegger, si vous regardez ses photos quand il était jeune, il était mince, il pesait, je ne sais pas combien, mais à mon avis, il devait faire, vous voyez, il est grand, mais il est très très mince. Et il a dit à ses amis, je serai Monsieur Univers. Et tout le monde a rigolé parce que vu la carrière qu'il avait, c'était impossible, il est devenu Monsieur Univers. Après, il a dit, je vais faire du cinéma. On lui a dit, mais tu as vu la gueule que t'as, les muscles que t'as? Et ben, il est devenu l'un des acteurs les mieux payés au monde. Après, il a dit, mais maintenant, je vais devenir élu des États-Unis. Il est devenu gouverneur. Donc, tout est possible, même si on n'a pas... Il ne faut pas regarder ce que les autres y veulent. Il faut regarder notre bonheur à nous. Et notre bonheur peut nous faire vraiment avancer. Il faut croire en soi. Ça, il faut croire en soi et savoir que tout le monde peut sortir du trou. N'ayez pas peur de demander un coup de main à quelqu'un. Et ne croyez pas à ce que tous les gens disent. Ça ne marchera jamais. Ça c'est pas possible, etc. Là, je vous donne une petite idée comme ça. C'est que tout à l'heure, j'ai discuté avec une intelligence artificielle qui n'était pas du tout faite pour discuter de ça. Mais j'ai commencé un petit peu à la titiller. Et elle me dit, quel est ton problème? Donne-moi un problème que tu voudrais résoudre. Je lui ai dit, je voudrais créer la paix sur la Terre. Elle m'a dit, bon, repasse dans le concret. Et je lui dis, c'est toi qui n'es pas concrète, parce que tu n'as pas de rêve. C'est la différence entre toi et moi.
Oui, ça c'est...
C'est beau.
C'est beau, quand tu n'as pas de rêve, c'est même pas la peine. La résilience, c'est partie des rêves. Quand tu es dans la prison, comme je disais, en train de te torturer, si tu vois une lumière à l'autre côté, c'est juste parce que tu es un rêveur.
C'est l'espoir.
C'est l'espoir, le rêve, c'est le sens que tu as dans ta vie, c'est l'utilité aussi. Donc, évidemment, des exemples de résilience, il y a plein qu'on peut citer. Mais ce qui m'intéresse aussi, étant donné que bientôt, on va travailler sur la paix, je vais vous poser une question à tous les deux et je vous répondrai après la troisième.
C'est plus facile pour toi, c'est toi qui la poses. Hein?
Oui, c'est pour ça. Non, mais je viens de la penser en cet instant, grâce
oui,
à toi.
Vas-y, vas-y.
Je pensais, on est devant une guerre, on est devant des bombes qui tombent partout. On est devant une bombe atomique qui peut sortir de... Voilà, on a des problèmes de budget, donc les choses ils vont mal. Comment vous faites, vous, pour croire à la paix dans un monde de guerre? On va commencer par toi, Aurélie.
Eh ben,
comment tu fais, toi, dans ton esprit pour être bien?
Je pense que je commence très simplement à ma propre échelle, c'est-à-dire que j'essaie de faire ce que j'ai à faire le mieux possible et de partager. C'est un état d'esprit en fait. Je vais essayer de travailler mon état d'esprit et c'est peut-être un peu naïf, hein, mais je vais essayer de le transmettre autour de moi en faisant bien mon travail, en étant sympa, en apportant ce que je peux apporter à qui en a besoin. Donc c'est vraiment, je sais pas si on peut dire un objectif, ça. Une petite contribution de fourmi à la mesure que je peux peut-être donner au jour le jour pour pas aller dans un sens ouais.
Mais c'est très beau que tu dis, c'est la clé. Si tu commences pas à travailler toi-même,
c'est la paix à mon échelle, en fait, à l'échelle d'un
c'est là
individu,
que commence. Merci Bruno.
Oui, c'est très bien de dire c'est la paix à mon échelle. Moi j'ai appris que les gens puissants ne s'occupent pas des choses qu'ils ne peuvent pas régler. Donc c'est pas la peine non plus de se dire que nous allons résoudre le problème de la guerre. Il vaut mieux qu'on travaille à instaurer la paix. Parce que moi je me sens pas du tout capable d'arrêter une guerre. Mais par contre je me sens très capable d'instaurer la paix. Après je voulais donner aussi des petits exemples justement par rapport à ta question. C'est que pendant la guerre du Golfe, moi j'ai travaillé pendant 10 ans à l'école de journalisme à Marseille, à l'IAE, à l'IEP. J'ai donné des cours et pendant la guerre du Golfe, je regardais la guerre du Golfe du côté des journalistes. Alors là, je vais peut-être faire du mal, mais enfin, moi, je me rappelle ce qui se passait, c'est que c'était dans le temps. On avait ce qu'on appelle le Telex, on avait l'AFP, et tous les 2 heures, il y avait une ligne de texte qui disait, on a vu passer un avion de là à là. Et après, à la télévision, le métier des médias, c'est d'amplifier, de tenir une audience, et du coup, on avait l'impression que la guerre était énorme. Et puis, au finir, suite à cette guerre, quand on regarde nous qui avons eu ce stress, je sais pas comment on dit ce stress guérique, je sais pas si on peut dire ça, mais en réalité, ça nous a pas vraiment touché, si parce qu'il y a des morts, etc. Mais de nous tout de suite, je sais pas si il faut pas aussi prendre à un recul et continuer à vivre. Parce que effectivement, c'est très grave ce qui se passe dans le monde. Il faut savoir qu'il y a plus de 16 guerres, même plus que ça actuellement, et qu'il y a des guerres qui tuent encore plus de monde que les guerres qu'on parle à la télé. Mais les guerres qu'on parle à la télé sont les guerres qui rapportent de l'argent aux gens qui vendent des armes. Donc c'est pour ça qu'on en parle plus, à mon avis. Mais il faut pas... la guerre, il faut faire abstraction, il faut pas regarder toute la journée les informations, il faut éviter de regarder les images de guerre avant de dormir, parce que notre cerveau, je peux vous assurer qu'il vit très mal toutes ces images de guerre avant de dormir, je pense pas qu'il se repose. Voilà, quelque chose que je voulais te dire un peu.
Oui, peut-être je vais dire deux choses pour rapport à ce qui t'a dit. En général, les gens qui font la guerre, ils ne savent pas régler la guerre. Mais il y a beaucoup qui ne veulent pas la régler. Ce n'est pas la même chose. C'est-à-dire que même dans une famille où on va descendre plus bas, il y a des gens qui sont en guerre et qui ne veulent pas régler la guerre parce qu'ils sont tellement mal à l'intérieur d'eux-mêmes qu'ils sont en guerre ambulante. Donc j'ai fait le parallèle pour dire que et c'est pour ça que je lis un peu ce que tu as dit toi et ce qu'a dit Bruno, c'est que j'ai beaucoup aimé que toi tu dis « j'ai fait à ma petite échelle ». Mais si tout le monde fait sa petite échelle, on change tout. Je vous donne un exemple tout simple. Pour rapport à l'alimentation, par exemple, à un moment venu, les gens ils ont commencé à comprendre qu'on mangeait son cancer de demain. Ils ont commencé à comprendre. Donc chacun, égoïstement, il a commencé à acheter des choses plus propres. Donc ça a développé un peu. Donc c'est la preuve que même égoïste, tous ensemble, on change les choses. Et je dirais aussi, quand tu dis à quelle échelle, c'est l'échelle, c'est un problème d'opportunité. Par exemple, l'échelle, si je vais à l'école mondiale, on croit qu'on change quelque chose, mais on est une petite fourmi, même là-haut, pour changer les choses et pour ceux qui t'écoutent, parce que là-bas, ils viennent beaucoup pour faire des affaires. Donc, tu comprends bien que quand on peut être à différentes échelles, échelle locale, échelle d'une ville, échelle régionale, échelle nationale, échelle européenne, parce qu'il y a des choses qui passent. Quand on peut, il faut saisir tous ces niveaux, et c'est ce que j'essaie de faire aujourd'hui, si la vie me donne l'opportunité de faire ça. Par contre, il faut partir que quand tu veux changer des choses dans ce monde, bien souvent, c'est très très difficile, parce que toutes les batailles, tu perds au moins 99%, tu les perds. Mais au fond, si tu ne l'aurais pas fait, c'est 10 fois pire. Oui. Voilà ce que je peux dire.
Mais tu as raison. Il faut agir. Il faut croire. Il faut croire que tout est possible. Tout est possible. C'est compliqué. Si c'est grand, c'est beaucoup plus long. Mais tout est possible. Imaginez la personne qui a inventé l'électricité. Combien de fois on lui a ri au nez. La personne qui a voulu voler comme les oiseaux. On n'aurait pas d'avion s'il n'y avait pas eu des génies, des fous. Donc il faut croire que la folie, elle peut aussi changer le monde si elle est positive. Par contre, quand on parlait de tout à l'heure des guerriers, oui, il faut savoir qu'il y a des chefs de guerre qui savent qu'ils n'ont aucune utilité sur la Terre s'il n'y a pas de guerre.
Exact.
Voilà. Exact. Donc c'est pour ça que certains créent les guerres, c'est pour pouvoir avoir du pouvoir, parce que certains chefs, s'il n'y a pas de guerre, ben, ils ne servent à rien.
Et même il y a des gens qui ont besoin de la guerre parce que sinon ils vont en prison.
Aussi.
Et si on repart à l'échelle individuelle, du coup, c'est vrai qu'il y a ce problème des guerres, etc. Où, bah, en tant qu'un petit individu isolé, ça peut être un peu difficile, enfin, de voir comment on peut agir. Mais là, donc, il y a eu pas mal de. Enfin, là, on est vraiment dans la vogue de la santé mentale. Il y a eu une journée mondiale qui est instaurée maintenant pour la santé mentale. Je crois que c'est le 10 octobre. On parle de plus en plus de psychologie, d'émotions, de blessures, blablabla. C'est rentré vraiment dans le vocabulaire. Le bonheur, enfin le bien-être, c'est vraiment, ça devient de plus en plus important. Alors qu'il y a quelques, enfin selon les époques, ça n'avait aucun intérêt. Est-ce que vous pensez en fait que maintenant on devient de plus en plus résilient en fait grâce au sport, l'alimentation, la notion de bien-être, de psychologie. Est-ce qu'on devient de plus en plus apte au bonheur?
Il y a aussi le fait qu'on s'est aperçu que qu'on a le psy, parce que normalement on croit que tout est médical et que quand on est malade il n'y a que le corps qui est malade, mais en réalité il y a aussi le psychisme qui peut être soigné. Donc il faut prendre, ça ce sont des choses qu'on n'apprend pas non plus à l'école, la méditation, etc. Il faut savoir que s'il existe des psychologues et des psychiatres, c'est parce que le psy peut tomber malade. Et c'est des choses qu'il faut aussi apprendre à éviter de tomber malade de ce côté-là. Donc c'est un enseignement qu'il faut, je pense qu'il faut revoir un petit peu l'enseignement que l'on a quand on est petit et même quand on est grand. Je pense qu'il y a aussi une grande histoire d'éducation du monde qui est un petit peu à revoir sérieusement.
Je voulais juste peut-être dire aussi que l'échelle individuelle, tous les gens qui parlent des choses mais ne s'appliquent pas à eux une paix intérieure, une paix avec les autres, une douceur avec les autres, ça commence par là. Ça veut dire que ce que tu disais tout à l'heure, et toi aussi, si on ne se pratique pas à soi-même des choses, mais en même temps, les gens qui sont hyper, hyper fragiles, des fois sont hyper, hyper souffrants. Et des fois, pour sortir de ces souffrances et de voir tellement de malheurs dans la terre, il y a beaucoup de gens qui ont la éco-anxiété, qui ont des anxiétés, qui ont des angoisses. Et selon le type de personne, il va y avoir des gens qui ne vont pas voir la télé, d'autres qu'il faut donner des conseils pour que tu te sens bien. Mais ce qu'il faut éviter, que chacun se mette dans une, comme une tortue, caché, et vivre son monde à part. Non, ça n'existe pas. On est tous dans une terre qui va crever ensemble. On va tous mourir ou vivre ensemble. Et c'est pour ça que quand tu disais tout à l'heure, je finirai par là parce qu'on n'est pas loin de l'émission. Je finirai pour quelque chose qui m'a beaucoup touché à moi. Quand j'étais au Chili, chaque personne, j'ai commencé à voir qu'il torturait moins les gens. Et je me suis rendu compte qu'il torturait moins les gens pour une raison très simple. Parce qu'il y avait beaucoup de gens dans le monde entier qui commençaient à se battre pour éviter la torture, pour éviter les dictatures. Il y avait 500 000 personnes à un manif à Marseille. Il avait les Suédois, les Italiens, tout ça. Donc tout à l'heure, quand il disait qu'est-ce qu'il peut faire chacun séparément, il avait des milliers de signatures séparément. Et finalement, il y avait des blocus économiques vis-à-vis du Chili. Il avait des choses que tu fais. Donc avec nous-mêmes, chacun de nous, s'il y a un esprit comme ça, on peut changer beaucoup, beaucoup les choses. Donc ça commence pour toi-même. Mais il ne faut pas non plus tomber sur la morale. Parce qu'avec la morale, toi tu ne fais pas ça, toi tu fais ça, on n'avance pas.
Tout à fait. Il faut montrer l'exemple. Il ne faut pas dire fais ceci, fais cela, ça ne sert à rien.
Il faut l'incarner.
Oui, parce qu'on peut se dire je suis coach, fais comme ça, je suis prof, fais comme ci, fais comme ça. Non, non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. J'avais une personne que j'ai dans un métier où j'ai travaillé qui me dit, écoute Bruno, je ne sais pas comment tu fais, moi j'ai 17 personnes que j'ai recrutées, il n'y en a pas un qui fait quelque chose. Je lui dis, et toi tu fais quoi? Il me dit, moi je fais comme eux. Et c'était ça, c'est que si on ne montre pas ce qu'il faut faire, ce n'est pas inné. Il faut essayer que ça devienne de soi, mais au départ... On est obligé d'apprendre à faire des choses.
Il reste 10 secondes.
Il reste 10 secondes.
Mais par contre, il faut laisser la possibilité de... On n'est pas parfait, on fait comme on peut. Merci à tous.
Merci de nous avoir écoutés.
Merci beaucoup de nous avoir invités. Merci. Kill or die.